Lutte des sidérurgistes et de leurs complices dans les Ardennes, 1979-1984. Documentaire radiophonique en 3 épisodes. Deuxième épisode. Récit des manifestations, des affrontements et des rencontres.
Au printemps 81, on entend parler de ce, pour la première fois de cette lutte anti-nucléaire qui a chaud. Et on décide d'y aller. Alors on sait qui. On, à l'époque, c'est une bande de squatteurs du 20e arrondissement. Et donc on a ces échos de cette lutte anti-nucléaire. On allait dans ces endroits-là pour se chercher, se trouver des complices. Pour nous, dans une perspective qui était, on va employer le mot, de toute façon, c'est ces mots-là qu'on employait nous à l'époque, quoi, qui était dans une perspective révolutionnaire. Alors, il ne faut pas oublier que c'était simplement une douzaine d'années après 68. Quoi, que maintenant, ça peut sembler très très loin, mais à l'époque, 68, c'était quelque chose de récent. Il y a un deuxième paramètre de cette époque qui est important aussi. Mitterrand venait d'être élu. Pour énormément de gens, la victoire de la gauche, c'était la victoire de 68. Quoi. Bon, ça c'est important parce que ce qui se passe ensuite justement avec les ouvriers de la chaire, etc., c'est la première lutte ouvrière et une des premières luttes tout court même qui a du temps des socialistes. Quand on est revenu sur la région parisienne, la première chose qu'on a fait, nous justement, c'est d'en parler. Ce qui fait que la fois suivante, quand on y est revenu, on était bien plus nombreux. Parce qu'il n'y avait pas que nous qui ramenions de plus en plus de monde, il y avait tous les autres aussi. Et ça venait effectivement, surtout de la région évidemment, mais de bien plus loin. Et ça, c'était assez remarquable aussi, cette disparité géographique. Quoi.
Les affrontements avec les forces de l'ordre, je vous le disais, se sont succédés. Rarement, il faut le dire, une telle violence a été atteinte dans la pointe de Givet. Violence en Ardennes, reportage de Henri Lederman, Françoise Herbe et Franck Badier.
Au départ de cette affaire, une manifestation pacifique contre la création d'une deuxième centrale à Chooz rassemblait samedi près d'une centaine d'antinucléaires aux abords de Viremolin. Pendant ce temps, à l'intérieur de la ville, des sidérurgistes de l'usine de la Chière, menacés de chômage, dressaient des barricades et s'en prenaient aux forces de l'ordre.
Voilà comment ça se passait en fait, c'est-à-dire que les flics se pointaient à chaud pour protéger la centrale. Il y avait des barrages qui se mettaient en place au niveau de Vireux. Les flics démontaient ces barrages, ces barricades, passaient, allaient à chaud. Les gens de Vireux refaisaient les barricades et au retour des flics de chaud, rebelotent. Et donc que ce soit à l'aller ou au retour, ça se passait avec fracas, quoi, avec comme premier objectif, en fait, de tenir le plus longtemps possible, c'est-à-dire pour faire chier les flics, bien sûr, mais tenir le plus longtemps possible, ça voulait dire aussi que tous ces gens qui étaient là à Vireux, ensemble, derrière les barricades, à les construire, etc., et pendant ce temps, ils se parlaient, évidemment, c'était du temps conquis, du temps de parole, et du bon temps, en plus, du temps où franchement, on s'amusait bien, quoi, où le jeu, là, il se mêlait à la guerre, on peut dire, quoi. Il y avait un aspect très sérieux, hein, parce qu'il faut voir qu'une usine de sidérurgie, c'est quasiment un atelier de fabrication d'armement, quoi. Et l'usine, elle était aux ouvriers qui l'ont ouverte à nous, hein, à tous ceux qui venaient et d'où qui viennent. Ce qui était franchement étonnant, hein, puisque moi, je me souviens, par exemple, que dans d'autres luttes où on avait pu aller, que ce soit à Longwy ou dans d'autres endroits comme ça, c'était extrêmement difficile de rentrer dans les usines, quoi. D'une part parce que les syndicats faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour nous en empêcher. On réussissait à y rentrer, mais plutôt discrètement, avec la complicité de certains, etc. Mais là, à Vireux, c'était vraiment porte ouverte, quoi. L'usine était à nous, quoi. À nous, à eux et à nous, quoi. Toutes les machines, les tours, les outils, les machines de l'usine, étaient détournés pour justement fabriquer des armes, des outils d'attaque ou de défense, dans des trucs assez élaborés, quoi. Les types, ils avaient fabriqué des lance-coques. Alors, en plus, cette route, elle passait dans une vallée, en fait, dans le creux d'une vallée, qui était donc entourée de petites montagnes, quoi. Et à partir desquels, justement, ils bombardaient les convois de flics. Ils avaient fabriqué des bazookas, c'est un terme trop fort, mais des espèces de lance-projectiles qui étaient très puissants et qui balançaient toute la ferraille et les débris de ferraille possibles et imaginables qu'on peut trouver dans une usine de ce genre. Les barricades elles-mêmes, c'était des barricades, je me souviens par exemple, qui étaient faites avec des lingots d'acier. Des trucs qui pesaient entre 1 et 2 tonnes, que tu pouvais bouger qu'avec des fanwick. Quand on mettait quelques dizaines pour barrer la route, c'était une sacrée entreprise après pour les flics de les enlever. Tu vois, ils étaient obligés de venir avec des bulles, avec du gros matériel, très escortés donc évidemment, parce que on se mettait pas derrière la barricade à les attendre. Hein. Elle était défendue de positions qui pouvaient être de l'intérieur de l'usine ou justement des petites hauteurs avoisinantes, ou sinon de tout le village lui-même. Sur toute la longueur du village, sur peut-être 1 kilomètre ou 2, quoi, il y avait des dizaines de groupes qui attaquaient les convois à leur passage. Et d'ailleurs, c'était un petit peu où il y avait une espèce d'émulation de samedi en samedi entre les groupes, à ceux qui allaient inventer les moyens les plus drôles ou les plus efficaces ou les plus pour les bloquer le plus longtemps possible, pour leur faire mal, pour y a 10 000 anecdotes qui seraient drôles à raconter sur moi je me souviens d'histoires par exemple avec des gamins de 12 ans, 10 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans qui avaient réussi par la ruse à grimper dans les camions de matériel des flics et à piquer des caisses de grenades et qui les avaient amenés aux adultes, on va dire, qui se sont servis pour les renvoyer à l'envoyeur.
L'histoire du matériel, hein, du matériel même militaire, on peut appeler ça comme ça, c'est une vraie jouissance. Hein. Mais oui, parce que faut pas se leurrer, enfin, je veux dire, tu luttes, mais tu es toujours à armes inégales, donc ouais, tu perds toujours.
Ouais, c'est vrai.
Mais alors, quand tu as des types qui te sortent des lingots d'acier, tu vois, puis ouais, que tu es capable de tenir un barrage et où les flics ne passent pas pendant toute la nuit, eh ben là, tu jouis, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que là, c'est vrai que tu mesures à quel point ils sont fragiles, parce que la détermination, elle est complètement autre. Par exemple, là où on jubilait, alors peut-être on se racontait des histoires, mais peut-être pas, mais on apprenait, alors on ne savait pas trop comment, par la presse, par la bande, que certains d'entre eux faisaient des crises de jaunisse tellement ils avaient la trouille. Et nous, ça nous faisait... on n'en pouvait plus, tu vois, quand on apprenait des trucs comme ça. Et ça fonctionne. Enfin, moi, je pense que c'est... En même temps, c'est de la jouissance guerrière, quoi. C'est-à-dire que t'es dans la guerre, hein. T'es vraiment pas dans autre chose, quoi. T'es dans le plaisir de la guerre, quoi.
Et il y a aussi un crescendo au niveau de la répression. Il y a des arrestations de sidérurgistes. Il y a des passages à tabac assez mémorables, des gens qui sont donnés pour morts parmi les sidérurgistes. Et puis il y a, je crois, au moins un samedi où il y a des antinucléaires et des sidérurgistes dans l'usine de Vireux qui s'affrontent avec les gardes mobiles. Il y a des blindés qui veulent pousser un wagon qui avait été mis en travers de la route. Ce blindé-là se retrouve au fossé, littéralement, avec ses 9 gardes mobiles dedans. Et en fait, une dépanneuse est envoyée à la rescousse, et laquelle dépanneuse est incendiée par les manifestants. Donc on est là à un sacré degré quand même. On peut parler, comme certains ont parlé, effectivement, de situations quasi insurrectionnelles. Même si c'est pas en permanence, mais je pense que les gens ont pu le ressentir comme ça, effectivement.
Il n'y avait pas pour longtemps à monter un barrage, hein. Ça allait tout seul.
Il y avait du lourd.
Oui, mais il suffisait qu'ils soient signalés 5 km avant, le barrage était monté quand ils arrivaient, quoi. Hein, puisqu'il y a eu la radio qui a été montée, la radio des antinucléaires de Chaux, qui a atterri à Vireux. Hein, de là, on était prévenus de l'arrivée. D'ailleurs, après, bon, ça commençait à dégénérer parce qu'ils ne pouvaient pas passer. Puis on en profitait, et puis c'est tout. Hein. Bon, on faisait des aciers spéciaux, il y avait quand même des matériaux et des matériaux spéciaux aussi, hein, des additifs pour les aciers. Et il y avait un laboratoire, et il y avait des laborantins. Hein, donc, tout ce qu'il fallait pour faire flamber comme il faut, même de l'acier.
Ouais. Et l'usine aussi, on se demandait, elle a été ouverte aux personnes extérieures, aux personnes qui n'étaient pas de l'usine, qui n'étaient pas ouvriers, ou même du village.
Bien sûr.
On voulait savoir comment ça
s'était passé. Oui, mais à partir du moment où la route est bloquée pour les CRS, elle est bloquée pour tout le monde. Et quand vous avez je ne sais combien de CRS qui vous courent après, il fallait bien se réfugier quelque part. Et ça a été ouvert, ça n'a même jamais été fermé. Ça a été ouvert automatiquement. Ça a été fermé qu'au CRS. Mais ils ne sont pas gênés pour rentrer quand même. Hein, mais sinon, tout le monde rentrait dans l'usine. Il n'y avait rien à voler d'abord. Hein, il n'y avait plus de production. Ouais, tout le monde rentrait. Mmh. Il fallait bien se mettre à l'abri. Il n'y avait pas d'organisation. Il y avait l'organisation en bas pour bloquer le pont. Et le restant, tout le monde était là. Il n'y avait pas de chef de groupe ou chef de bataillon ou quoi que ce soit. Hein. Personne ne commandait personne. Hein. Je pense que ça n'aurait pas marché de toute façon s'il y avait quelqu'un qui avait voulu commander l'ensemble. Et puis chacun voit la chose à sa façon.
Ah, moi, je suis parisien. Oui. Enfin, banlieusard. À l'époque, bon, moi, j'ai 18 ans. Et déjà, depuis un bon moment, ma principale activité, une de mes activités favorites, mon hobby, c'était l'affrontement avec les flics. Et on était toute une bande de lycéens. C'était aussi le début du mouvement, enfin, des trucs punk, les squats. Et puis, il y avait ce truc-là qui était... des pratiques assez récurrentes d'aller dans les manifs, se taper en fin de manif, y compris pour n'importe quoi. C'est-à-dire, la cause qui était défendue, on s'en foutait un peu. Quoi. Bon, et c'est pour ça que j'étais d'abord au manif antinucléaire de Chaux, parce qu'il y avait de la baston. Parce qu'il y avait de la baston, donc s'il y a de la baston, on y va. Mais on était très très... bon, c'était ce qu'on appelait les inorganisés. Et c'était un espèce de microcosme, de ghetto dans lequel j'étais, quoi.
Et toi, tu y as retourné combien de fois là-bas?
Bah, je pense qu'en 2 ans, j'ai pas loupé une seule fois. Mais j'y allais que pour les fins de mois, quoi. Faut bien comprendre, les affrontements, c'était un truc assez barjot, puisqu'on était en gros entre 500 personnes et des fois 200. Et en face de nous, il y avait des blindés, des hélicoptères. C'était disproportionné. Eux, ils arrivaient vraiment en truc de guerre. Et nous, en face, on était préparés à ça. C'est assez étonnant, mais et je le regrette, mais j'ai passé des heures à tenir une barricade ou à monter des guet-apens avec des ouvriers, mais on n'a pas parlé politique, 5 secondes. On n'a pas discuté de la lutte, on a parlé de tout, de rien. Ça, c'est sur les rapports. Après, tu vas sur une barricade, t'as les gens, tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, ils ont, toi, t'as 18 ans, ça pourrait être ton père, ils sont là, c'est des... T'as des femmes qui arrivent en portant des caisses de sandwich, des grosses gamelles de soupe. Et c'est le truc spontané, c'est pas le truc qui a été organisé par le comité attaque du coin. C'est les gens qui font ça. Et évidemment, ça donne des rapports complètement différents. C'est une ambiance qui n'a rien à voir avec une ambiance de n'importe où ailleurs. Et je peux dire une atmosphère où l'entièreté des pensées des gens sont tournées vers... vers l'affrontement, et donc vers les moyens d'y parvenir, et donc vers la solidarité, et le fait d'être réellement une collectivité. Il y a un sentiment collectif. Parce que justement, il n'y a pas de stratégie, c'est pas une bataille à la romaine, où les gens, ils avancent en ligne, il y a des ordres, machin. Donc c'est que des initiatives individuelles, mais c'est des initiatives individuelles qui tiennent compte du fait collectif.
Alors ça, les manifestations de chaque mois, on avait 4 semaines pour se préparer, finalement. Chacun, dans son petit coin, organisait un petit peu... des choses. Bon, il n'y a pas eu de mort, on a eu de la chance, hein, parce que ça a quand même cartonné très très fort, hein, faut savoir que ça a très très cartonné. Bon, puis il y a toujours envie de casser du CRS, hein, c'est comment ça marche. Hein. Mais bon, chacun dans son petit coin, bon, préparait des choses, quoi. Bon, voilà. C'était la fronde, souvent c'était la fronde, un but de cocktail Molotov, hein, naturellement, fait partie du lot. Et puis bon, tout ce qui était matériel de transport. Les lingots d'acier, puisque les lingots, il fallait bien qu'ils viennent de quelque part, donc ils étaient sur place, autant les prendre. Bon, quelques wagons aussi pour barrer la route, ça va tout seul, puisque la voie ferrée traversait la route, donc autant mettre deux wagons, ça va vite à pousser, ça mange pas de pain, quoi. Bon, mettons, s'il y avait une manifestation le week-end, bon, le lundi matin, moi je travaillais au Laminoir, donc on faisait des barres d'acier qui allaient de 10 à 150, hein, de diamètre. Hein. Le 10, le 12 et le 14, toutes les chutes c'était fait en petits morceaux. Hein. On mettait la cisaille en route, on faisait à chaque coupe, on faisait 30 ou 40 projectiles. Et puis on faisait ça pendant une heure et demie, donc on avait des sauts plats. Hein. Mais ça, bon, c'est normal, on avait sur place, c'est ce qu'il fallait. Quoi. Il y a des gens qui venaient aussi là, qui venaient manifester, puis qui repartaient chez eux, puis il y a ceux qui restaient, ceux qui venaient pour passer le week-end dans la pointe. Hein. Il y avait une bonne ambiance familiale. Quoi. C'est ça, finalement. Une manifestation, c'est ça aussi. Hein. C'est l'esprit de se rencontrer, et puis d'être ensemble, de dialoguer, puis après, au moment donné, ben, il y a un coup dur à faire, bon, on fait. Mais bon, moi j'ai trouvé ça très, très... très familier, très festif. Quoi.
Mais c'était des gens assez différents finalement qui se retrouvaient à vivre.
Oui, complètement différents, on a vraiment... Nous, c'était plutôt des gens, des travailleurs finalement. Nous, on travaillait du père en fils, donc voilà. Que ces gens-là, bon, c'est des gens qui étaient à l'école, c'est des gens qui... C'est vraiment pas la même classe sociale, si on veut. Avec des idées, bon, chacun ses idées, quoi, mais bon.
Et en fin de mois, ça transformait quand même complètement le village. Et comment est-ce passé cette transformation?
C'est du tout simple, de l'automatique, du normal. C'était le jour de la manif, tout le monde était là, c'est tout. Vendredi, c'est le marché, vous allez au marché. Là, vous alliez à la manif.
C'est tout. Tout le monde au marché.
Voilà. Ça mettait un peu d'animation.
Et ça se passait comment avec, avec les gens de l'extérieur, quoi?
Aucun heurt, tout simple, tout doux, tout coulant. Mais je ne pense pas que c'était si différent que ça, hein, en fin de compte. Non, ils défendaient une idée, on en défendait une autre, les deux idées se sont rejointes, et puis c'est tout. Des extérieurs.
Nous, ceux qui sont venus ici, on n'a jamais eu de problème. Hein. Jamais.
Non.
La seule différence, c'est que bien souvent, ils avaient des grands cheveux, oui. Mais c'est tout. Voilà. C'était la seule différence.
Il y avait,
hein.
Y avait plein de fleurs sur les camionnettes, ouais. Mais c'est tout. Hein.
Il n'y
avait rien d'autre.
Et d'une manière générale, les gens du Vireux, ils voyaient ça comment, le fait qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent
Ouais, c'était au départ un peu bizarre quand même. Hein. Ou après, ça a été, hein, quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas là pour casser ou pour foutre le bordel ou voler des poules, quoi. Hein. Hein, c'est tout. Hein. Non.
Je crois que les gens se méfieraient plus maintenant
oui,
qu'il
oui,
y a 20 ans.
C'est sûr.
C'est pas du tout la même mentalité. Non.
Et les heures d'attente, justement, bas sur la route, à bloquer la route, à attendre.
Oui, mais ça passait vite, là.
Bah, vous ouais. Savez, quand on est beaucoup de monde comme ça, que tout le monde discute, on voit pas le temps passer.
Il
n'y
a pas d'ennui,
hein.
Il n'y a pas de longueur.
Tout,
hein.
Tout le monde mettait la main à la pâte.
Oui, oui, bien sûr. Tout le patelin. Hein.
Ah oui, question de ça, tout le monde partageait tout, quoi.
Des balais, ouvrait les sacs à dos, il y avait toujours quelque chose dedans. Quoi. C'est pour ça, vous demandez comment on s'est rencontrés. Bah, comme ça, hein, tout simplement. Mm. Quoi qu'on en dise, on n'a jamais vu de bandits ou de délinquants. Bon, les discussions, bah, au moment des manifs, la discussion tournait sur la manif. Quoi, hein. Sinon, si on avait un peu de temps, bah, on parlait un peu de la vie courante, de ce qu'ils faisaient. Hein, bien, c'est beaucoup d'étudiants, on demandait ce qu'ils faisaient. Ils demandaient qu'on voulait, ça demandait ce qu'on faisait à l'usine, des trucs comme ça. Ça discutait comme ça. Hein.
Je voulais revenir sur ce que tu disais quand on s'est vu la dernière fois sur le fait que justement la maison ici elle s'est transformée, c'est qu'il y a plein de gens qui passaient.
En champ de bataille.
C'était le squat ici.
Oui.
Pourquoi tu avais décidé d'ouvrir ta maison à tous ces gens-là?
C'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient bien. Puis il y avait ceux qu'on n'avait pas spécialement envie de voir quand même. C'est vrai, comme tout. Hein.
Ouais. Mais enfin, ils n'ont jamais été mis dehors quand même.
Non, ils n'ont jamais été mis dehors. Eh, parce que de toute façon, s'ils avaient pas... il n'y avait pas que notre maison, il hein, ne faut c'était, pas croire. Hein,
c'était bourré un peu partout.
C'était bourré partout. Hein, les gens, bon, ben, ils arrivaient, bon, ben, ils se mettaient à table, et puis ils ne repartaient pas. Quoi, c'est tout, c'était comme tout, ça. Hein. Mais de toute façon, il fallait bien les coucher. Ou alors on les mettait avec les CRS dans la rue.
C'est quand même ici qu'il y en a eu plus.
C'est tout.
Bon, alors moi, j'étais parisienne. J'habitais à Paris, j'habitais dans le 20e à cette époque-là, dans les squats du 20e.
Comment ça s'est passé, les premières rencontres? Qui t'a rencontré là-bas la première fois où tu y allais, et puis après?
Ouais, parce qu'on a rencontré assez vite des gens dans des bars, au départ. Hein. On a rencontré donc un jeune dans un bar, un mec qui s'appelait Nello, et avec qui on est resté très souvent, qui nous accueillait, avec qui, toutes les fois après, tous les week-ends de septembre, octobre, novembre, où on est vraiment arrivé 3-4 jours auparavant et tout, dès le vendredi soir, si mes souvenirs sont bons, on dormait à l'usine. Mais les 2 jours ou la veille précédent et tout ça, on dormait chez l'habitant. Bon, par exemple, il y a eu évidemment certains soirs, quelques voitures immatriculées 75 ou en Belgique ou autre, qui se retrouvaient avec des pneus crevés, etc. Mmh. Mais par contre, il y a eu aussi le côté inverse, c'est que tout le monde se démerdait très vite pour leur retrouver des pneus, pour réparer. Et ça, pas forcément des ouvriers de la chière, quoi. Ou peut-être que c'en était, mais ça pouvait être aussi, je sais plus, il y avait un épicier qui était super sympa, il y avait un bar qui était ouvert où on était reçus, quoi. Il y a un sentiment vraiment comme ça, quoi. Et ce qui était hyper rare, parce qu'en général, les touristes malsains ou les mecs qui viennent juste pour s'affronter, ils sont en général très mal vus. Enfin, je veux dire, à Longwy, t'avais vraiment l'impression d'être un peu un soldat à Longwy. Ce sentiment-là, par exemple, jamais je l'ai eu je l'ai senti là-bas. Ça, c'est quand même, mine de rien, le genre d'attitude qui ont fait changer radicalement mes façons de voir, justement, par rapport à comment je me présentais, comment j'étais dans des situations comme ça. C'est-à-dire, on n'arrive pas à la manif, on parle à personne, et une fois que la baston est terminée, on se casse. Ça existait vachement, quand même, hein, dans tous les milieux parisiens ou autres, ou même voire antinuque et tout ça, où, tu vois, genre... Mais par contre, il y avait aussi une bonne partie de gens qui venaient de l'extérieur et qui se mêlaient totalement aux gens. Et pendant les affrontements, tout le monde était ensemble et mélangé.
La majeure partie des gens les accueillaient sans aucun problème, quoi. Il n'y a jamais eu de conflit entre les deux parties, quoi. La preuve, ils revenaient régulièrement, donc si ça s'était pas bien passé, ils ne seraient plus revenus, quoi. Ils avaient l'air convaincus et apparemment ils savaient ce qu'ils venaient faire ici. Ils venaient pas foutre des cailloux sur des forces de l'ordre. Ils avaient un certain idéal et puis ils venaient donner un coup de main, quoi, pour essayer de faire parler du coin, et pas obligatoirement des comment ils certains les appelaient là, les extrémistes et autres. Non, c'était des gens très sympas. Je dis, des histoires d'extrémistes, on a entendu parler par les médias. C'est eux qui colportaient ce qu'on voulait bien leur dire. Hein. Alors que, moi personnellement, j'en ai jamais rencontré. Toujours rencontré des gens sincères qui faisaient tous les sites où il y avait des luttes comme ça, que ce soit pour le nucléaire, que ce soit pour la défense de l'emploi. En général, c'était des convaincus, quoi.
Il y avait vraiment des gens ensemble, quoi, des gens qui se battaient ensemble, et à toutes raisons confondues. Alors, ces raisons, de toute façon, et ça c'est vraiment la chose qui était la plus passionnante et la plus intéressante qui s'est passée là-bas, ces raisons, justement, elles se sont très vite mélangées et ben dans la rencontre. À partir du moment où il y avait des ouvriers qui se mettaient à discuter avec des chômeurs qui pouvaient venir de Paris, ou avec d'autres sidérurgistes qui pouvaient venir de Belgique, ou avec des gens qui étaient anti-nucléaires, mais qui étaient aussi des gens qui avaient un travail, des conditions de vie qui leur plaisaient pas, etc. À partir du moment où toutes ces raisons-là se sont mises à s'échanger, très vite, la critique, justement, elle s'est mise à englober énormément de choses, quoi. C'est-à-dire, on parlait de tout, mais vraiment de tout. Du système, de la vie quotidienne, du travail, etc.
Ce qui s'est quand même passé sur le versant de la non-rencontre, c'est que c'était quand même beaucoup de gens qui vivaient en marge, qui n'étaient pas du tout insérés dans le monde du travail, qui n'avaient pas ce genre de valeurs et qui luttaient parce que la lutte était importante dans leur vie. Et qui pouvaient se sentir solidaires des gens de chaud qui tout d'un coup se faisaient militariser complètement, imposer quelque chose de complètement aberrant. Mais le seul point commun, il était là finalement, parce que il y avait des modes de vie qui étaient complètement différents. Hein, ils rencontraient des gens à chaud qui avaient toujours bossé, qui remboursaient des crédits, qui étaient embringués dans un mode de vie qui, par ailleurs, était même combattu. Et ça s'est retrouvé aussi par rapport à Vireux. C'est-à-dire, alors pour prendre mon exemple personnel, en plus j'étais quand même jeune, moi j'avais comme seul objectif de jamais travailler de ma vie, et j'étais à des années-lumière d'un mode de vie bien réglé, où justement il fallait se démerder pour rembourser un crédit de bagnole ou un crédit de maison, et où si on se retrouvait mis à la porte du boulot, tout s'effondrait. Et là, il y a eu une non-rencontre, parce que pour les gens de chaud ou de Vireux, de se retrouver confrontés à des gens qui étaient plus jeunes qu'eux pour beaucoup, et puis qui combattaient ce que eux-mêmes vivaient dans leur quotidien, c'était Mars. C'est-à-dire qu'on pouvait discuter sur certains sujets, être d'accord et en réunion avoir des objectifs commun, voir les choses de la même manière au niveau de la lutte et tout ça, mais au niveau des modes de vie, certainement pas. Et c'est là qu'il y a une rencontre qui ne s'est pas faite. Ça a été extrêmement difficile, parce qu'en même temps, ça venait complètement bousculer leurs valeurs, et nous aussi, on avait nos valeurs qui étaient bousculées. Parce que quand on venait soutenir les ouvriers de la chière, en même temps, il y avait plein de revendications dans lesquelles on ne pouvait pas se retrouver. C'était inconciliable, enfin il y avait des aspects qui n'étaient pas conciliables.
Comment je suis arrivé à Vireux? C'est une histoire où peu à peu, après avoir milité dans un grand parti politique bien connu de tout le monde, le Parti communiste français, que j'ai quitté en fait dans les années 70, m'être promené un peu dans l'extrême gauche et avoir rencontré plus ou moins des gens plus ou moins intéressants. À cette époque-là, et même aujourd'hui, quoi, je suivais pas un groupe particulier, quoi. Mais du coup, à pas suivre un groupe particulier, tu pouvais te mélanger avec plein de groupes. C'était relativement ouvert, quoi. C'était possible. Et là-dessus, on était pas mal, en fait, à considérer qu'il fallait soutenir ce genre d'action où les gens, ils mouillaient la chemise, même si effectivement, en y réfléchissant bien, une fois qu'ils allaient atteindre leur but, ils n'iraient pas forcément beaucoup plus loin. Mais au moins, pendant la période des affrontements, pendant la période d'émulsion, où on ne savait pas ce qui allait se passer, il se passait des rencontres, il se passait des discussions. Moi, je me souviens d'une discussion c'était un père de famille, un mec qui avait 20 ans de boîte à Vireux dans sa tôle. Et je me souviens comment il comprenait pas, quoi. Il était dégoûté, il comprenait pas que pour lui, il avait tout bien fait. Il avait été sage à l'école, il avait été à l'armée, il avait commencé à travailler à 19-20 ans, et puis il travaillait, il a eu des enfants, il avait acheté le pavillon, et puis voilà, on lui disait, non, tout ça c'est fini. Ce mec-là, il me disait, regarde, tu vois, c'est incroyable, il y a des gens qui viennent nous aider. Il parlait d'un sidérurgiste belge qu'il avait hébergé, qui était en fait d'origine polonaise, et qu'il avait hébergé sûrement un des samedis d'avant. Et il me disait, mais tu te rends compte comment on peut être? Je l'ai amené chez moi, il a dormi chez moi. Et pendant toute la nuit, j'ai pas dormi. Parce que j'avais peur qu'il me vole toute la maison et tout. Et en fait, lui-même se rendait compte, ça l'avait complètement chamboulé, ce mec-là. Et du coup, il m'expliquait ça pour me dire qu'il m'hébergerait pas cette nuit-là, quoi. Et ce mec-là, il avait aucune... Ouais, il avait pas plus envie de... C'est la vie qui le bousculait, ça. Il avait pas plus envie de rencontrer des gens.
Ça va être un peu dommage pour cette interview, mais moi, j'ai eu très très peu de contacts avec les gens de chaud ou de Vireux. On était peut-être trop nombreux, on arrivait trop en groupe, donc on restait en groupe. c'était pas du tout des groupes fermés, il y avait beaucoup de circulation, mais c'était, enfin, on se parlait, etc., mais il n'y avait pas d'échange, de débat, de... il n'y avait pas d'assemblée, il n'y avait pas, enfin moi, il y en avait peut-être, mais j'ai jamais assisté à ces assemblées. C'était très convivial, mais c'était pas comme eux, on n'était pas comme les ouvriers de Vireux. Mais il n'y a jamais eu, j'ai jamais vu la moindre réflexion, le moindre regard vis-à-vis des potes rebeux qui étaient avec nous. Jamais. Ou pas vis-à-vis du fait qu'on ait un look punk ou je sais pas quoi. Moi, je sais que sur le rapport avec les femmes de Vireux, les femmes de Vireux, elles avaient leur place dans la lutte. Elles étaient sur les barricades, quand ça chauffait pas trop. Elles participaient aux discussions, elles étaient dans les rigolades, elles étaient dans les... dans l'élaboration des barricades, dans les choses comme ça, mais elles avaient quand même leur rôle, elles faisaient la soupe, machin, etc. Un truc qui illustre bien, à mon avis, les rapports avec les gens de Vireux, et je sais pas trop quoi en penser, hein. Bon, attends, je livre brut, comme ça. On est en train de ramper derrière un parapet pour attaquer les flics par derrière. Alors, c'est une situation, alors tout le monde se fait des sourires, il y a une super ambiance entre les gens, une espèce de... on est en vraiment de faire un sale coup, quoi. Et le mec, qui est là, qui est en train de ramper devant moi, qui se retourne et fait « Ah, qu'est-ce qu'on se marre, ça me rappelle l'Algérie. » Et ça jette quand même un froid, quoi. Ça jette un froid, et c'est le paradoxe des deux côtés, quoi. C'est, tu vois, c'est vraiment des deux côtés. D'un côté, t'as un mec qui te sort ce truc qui est sidérant de beaufitude. Alors, tu peux dire « Ouais, mais alors, ces gens-là, c'est des cons. » Mais moi, je me suis surtout dit l'inverse. Je me dis « Putain, même le dernier des cons, il a une capacité de révolte, il a... il est possible de faire les choses les plus fantastiques avec lui, quoi. »
Fin du deuxième épisode. L'intégralité du montage est disponible sur Internet à l'adresse suivante internetdown.org.